France Culture.
So at one, track one, continued, number one.
À cette époque, Staline n'avait plus besoin d'appui, plus besoin d'être soutenu par d'autres. Il administrait la justice tout seul et exterminait les gens. On était déjà en temps de guerre.
Grande traversée, devenir Staline.
Становление Сталина.
Cinquième épisode, un généralissime et son culte. Marie Chartron. Diffy Mariani.
В конце 40-го года и в начале 41-го года.
Fin 1940, début 1941, on sentait déjà qu'on se dirigeait vers la guerre. Staline n'a jamais soulevé une seule fois la question de l'inéluctabilité de la guerre en ma présence. Mais d'après son humeur, son comportement, on comprenait qu'il le sentait et que cela le rendait très anxieux.
La voix que l'on entend ici, c'est celle de Nikita Khrouchtchev, le successeur de Joseph Staline à la tête de l'Union soviétique. Il s'est secrètement et longuement enregistré dans ses vieux jours, une fois écarté du pouvoir. Dans ses souvenirs dictés sur bande, à mi-chemin entre journal intime et testament politique, très partiel, il revient sur ses années passées aux côtés de Staline. Khrouchtchev a rejoint le cercle restreint du bureau politique après les grandes purges de 1937-1938, dans un contexte d'une violence extrême où ont été décimées non seulement la vieille garde des bolcheviks, mais toutes les couches de la société. Dans cette logique paranoïaque folle, Staline est le chef d'orchestre et la partition est exécutée par ceux qui l'entourent. Par peur, mais aussi par conviction. À la fin des années 1930, l'URSS vit donc sous le signe de la peur et de la menace de guerre. Menace qui a pour réponse un stupéfiant pacte de non-agression, signé entre Staline et Hitler par la main de leurs deux ministres des Affaires étrangères, Vyacheslav Molotov et Joachim von Ribbentrop. Il comporte un protocole secret qui détermine la sphère d'influence des deux signataires. En l'occurrence, le partage des territoires d'Europe de l'Est.
Le pacte Molotov-Ribbentrop est signé par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique le 23 août 1939.
Emilia Kustova, historienne.
Donc le pacte Molotov-Ribbentrop est une véritable tempête et un bouleversement à l'intérieur de l'Union soviétique et auprès des populations soviétiques, puisque pendant des années qui ont précédé, on a présenté le régime nazi, qu'on désigne en URSS comme un régime fasciste, donc les fascistes, étaient les pires ennemis, présentés comme les pires ennemis de l'Union soviétique. Et Hitler était présenté comme une sorte d'incarnation du mal, un diable incarné. Et maintenant, on annonce aux soviétiques qu'à partir du 23 août 1939, ce sont nos meilleurs amis, on va faire du commerce avec eux, on va coopérer avec eux, etc., etc. Donc ça provoque un choc et on sait aujourd'hui, grâce aux sources, par exemple policières, on sait à quel point les populations soviétiques connaissent un désarroi. Et en fait, on a quand même des signes qui montrent que beaucoup ne suivent pas le gouvernement dans ce revirement brutal.
Revirement brutal et finalement marché de dupes. Puisque l'Allemagne nazie rompra le pacte et envahira l'URSS près de 2 ans plus tard.
L'invasion allemande à partir du 22 juin 1941, l'invasion dont les signaux parvenaient au Kremlin pendant plusieurs semaines qui ont précédé donc l'invasion, Staline n'a pas voulu entendre et voir ces signaux. Il s'est bouché les oreilles, fermé les yeux et obligé les autres à faire de même. Et donc, quand les troupes allemandes traversent la frontière, ça devient un véritable coup de tonnerre pour les dirigeants soviétiques et pour toute la population soviétique, coup de tonnerre qui se transforme à une déflagration avec ces plusieurs semaines puis plusieurs mois d'avancée que plus rien ne semble capable d'arrêter. Et donc, une panique, un désarroi, une crise majeure. On sait que Staline tarde à prendre la parole. C'est Molotov, son ministre des Affaires étrangères, qui annonce le début du conflit armé contre l'Allemagne.
Side 2, tape number 3, continue.
Si les cadres qui avaient été créés par le parti, formés par la lutte, la guerre civile, par leurs études, si ces cadres avaient été vivants, s'ils avaient pris leur place dans nos troupes, alors ça aurait été une toute autre affaire lorsqu'Hitler a attaqué l'Union soviétique. Staline critiquait le ministère de la guerre, il critiquait le ministère de la défense et il critiquait Vorochilov en particulier. Je me souviens qu'un jour, il s'est mis violemment en colère. Ce n'était pas lors d'une réunion, mais dans son appartement au Kremlin ou à la datcha proche, la Blizhnaya datcha. Staline, donc, très virulent dans sa critique, s'emporte et se lève brusquement. Vorochilov, bouillonnant aussi, rougit et se met debout. En réponse aux critiques de Staline, il lance une accusation. « Tu es coupable. C'est toi qui as exterminé les cadres militaires. C'est toi qui as exterminé les cadres !» Staline lui fait une réponse bien sentie. Alors, Vorochilov saisit une assiette sur laquelle est posé un cochon de lait rôti, la soulève et en frappe un coup contre la table.
En fait, le moment de la guerre est très particulier parce que effectivement, il y a énormément de personnes dans les camps qui ont été réprimées. Il y en a énormément qui ont été fusillées, tout simplement.
Alain Blum, démographe et historien.
La plupart des officiers supérieurs ont été fusillés en 1937. D'autres sont dans les camps, donc l'armée était complètement décapitée. Et avec l'offensive allemande, à partir du 22 juin 1941, Staline s'aperçoit, quand je dis s'aperçoit, c'est un peu absurde, mais Staline doit réaffecter des personnes compétentes à la tête de l'armée. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'effectivement, il va libérer, sortir des camps, des officiers qui avaient été arrêtés en 36, 37, 38, pour les mettre à la tête de régiments et d'autres corps militaires. Et c'est un exemple qui est assez frappant, d'autant que ces militaires vont faire leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont été réprimés très violemment, ils ont vu tous leurs supérieurs ou les personnes autour d'elles qui étaient dans l'armée réprimées et très souvent fusillées. Et malgré tout, effectivement, ils vont prendre de la tête de régiments de l'armée rouge qui vont combattre les nazis. La manière dont réagissent ces personnes réprimées est assez étonnante.
Suite à l'agression nazie contre l'Union soviétique, il y a un tournant très rapide dans la politique religieuse de Staline, puisqu'il met fin à des années de répression et de persécution du clergé, qui se trouve à ce moment-là, pour la grande partie, a été soit fusillé, soit se trouve dans les camps du goulag. De son côté, l'Église réagit, ce qui reste encore de l'Église orthodoxe, réagit aussi très vite après juin 1941, appelle le peuple à défendre les frontières de la patrie. Donc en fait, il y a aussi, c'est très important, il y a une sorte d'identification entre l'Union soviétique et la patrie orthodoxe.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!
Staline, discours radiodiffusé du 3 juillet 1941.
Слушайте выступление председателя Государственного комитета обороны товарища Сталина.
Камарады, citoyens, frères et sœurs, combattants de notre армée, de notre флотte, je m'adresse à vous, mes amis. La perfide агрессия militaire de l'Allemagne hitlérienne, commencée le 22 juin, se poursuit contre notre patrie. Malgré la résistance héroïque de l'armée rouge, et bien que les meilleures divisions de l'ennemi et les meilleures unités de son aviation aient déjà été défaites, et ait trouvé la mort sur les champs de bataille, l'ennemi continue à se ruer en avant, jetant sur le front des forces. L'aviation fasciste étend l'action de ses bombardiers en soumettant au bombardement Murmansk, Orsha, Mogilev, Smolensk, Kiev, Odessa, Sevastopol. Un grave danger pèse sur notre patrie. Toutes nos forces pour le soutien de notre héroïque armée rouge, de notre glorieuse flotte rouge. Toutes les forces du peuple pour écraser l'ennemi. En avant vers notre victoire.
Quand Staline prend la parole quelques jours plus tard, il s'adresse par la radio, il s'adresse aux soviétiques dans une manière tout à fait inhabituelle. Il les traite de frères et de sœurs, donc ce qui constitue une véritable rupture avec tout le vocabulaire bolchevique utilisé auparavant qui parlait des camarades. Là, c'est frères et sœurs. Évidemment, ça fait penser, à nouveau, ça renvoie à l'univers religieux, une fois de plus. Et puis, donc, il va chercher à reprendre son rôle clé pour les soviétiques, sans pour autant se mettre trop en avant pour ne pas être tenu responsable de ces défaites qui se suivent en continu pendant toute la première année. Mais il est visiblement conscient de son rôle et de comment il est vu par une partie de la population soviétique.
Svetlana Alilouyeva, fille de Staline.
À l'automne 1941, quand l'armée allemande était tout près de Moscou, elle était déjà dans les faubourgs en réalité, on avait prévu de déplacer toute la garde-robe. Toute la maisonnée était prête à partir. Tout le matériel de cuisine, tout était déjà empaqueté, tout le nécessaire. Le train était déjà sur les rails, prêt à tout emporter. Et en l'espace d'une demi-heure, il a appelé le chef de ses gardes du corps et lui a dit « On ne part pas, on reste ».
Les troupes allemandes sont littéralement aux portes de la ville. Elles sont à quelques dizaines de kilomètres, voire à quelques kilomètres de la Place Rouge et du Kremlin. Et c'est donc au début novembre où une grande partie des institutions gouvernementales ont été évacuées à l'arrière. Mais Staline, lui, il est resté à Moscou et il a tenu à qu'un défilé militaire se tienne sur la Place Rouge le 7 novembre, comme tous les ans, donc pour commémorer la révolution d'octobre, et il prononce un discours, et donc il cherche vraiment à montrer qu'il reste là. Il assume ce rôle de la figure clé, de celui qui sait, qui peut et qui saura conduire le pays à la victoire, malgré ce début de guerre absolument désastreux.
Il était incontestablement fait pour la chose militaire. Je pense que pour mon père, la guerre a été la période la plus facile. À ce moment-là, il avait un ennemi clairement identifié. C'était l'apogée de sa carrière. Pendant 4 ans, il a travaillé 24 heures sur 24. Je ne sais pas quand il dormait. Il était constamment occupé, plongé dans des cartes, des documents, dans tous les éléments que lui transmettaient les militaires. Lorsque la guerre s'est terminée, il est tombé malade et le déclin a été immédiat. Il n'avait que 66 ans à la fin de la guerre.
On voit quand même l'effet de cette décision de rester à Moscou, de maintenir le défilé, de prendre la parole. Ça donne de l'espoir et cette décision symbolique forte, elle sera suivie. Donc on ne peut pas évidemment établir un lien direct de causalité, mais on sait que la bataille de Moscou, qui permettra d'empêcher la conquête de la ville, de la capitale par la Wehrmacht, cette bataille est en fait une première victoire des soviétiques dans cette guerre, donc une première depuis quasiment 6 mois que dure la guerre. Et cette bataille ne suffira absolument pas à gagner la guerre. Elle sera même suivie d'une série d'autres débâcles, désastres militaires
Mais il n'empêche que cette bataille de Moscou, elle est gagnée et ça restera évidemment dans la mémoire.
C'est une idée propre à Staline.
Nicolas Vert, historien.
D'incarner le parti, d'incarner la patrie ensuite, puisque au moment de la Grande Guerre patriotique, les soldats allaient au combat en criant « Vive la patrie, vive Staline !» Boy za rodinu, boy za Stalina. Donc il est arrivé à ce tour de passe-passe extraordinaire que d'abord il a incarné le parti, ensuite la patrie, carrément la patrie combattante.
This is the end of side 2, track 2, tape number 4.
Quand les armées soviétiques ont dû battre en retraite, il n'a publié aucun document militaire portant sa signature. C'était signé le quartier général ou le commandement général. En un mot, une signature impersonnelle, mais pas Staline. En revanche, chaque document portait sa signature quand nous avons rencontré des succès. Ce sont les soldats qui abandonnent les villes, mais ce sont les généraux qui les prennent. C'est selon ce proverbe militaire que Staline a agi. Quand on abandonnait le terrain, c'était les soldats. Mais Staline n'était pas là. Et quand on reprenait du terrain, les soldats, il n'y en avait plus. C'est Staline qui le reprenait. C'était fait sur son ordre, à son initiative.
Nana Yashvili, guide au musée Staline à Gori.
Le fils aîné de Staline, Yakov Djougachvili, avait étudié à l'académie militaire. Pendant la guerre, il a servi dans l'armée rouge. Et en 1941, il a été fait prisonnier en Biélorussie.
Quand la guerre a commencé, Yakov Djougachvili est parti au front, comme tout le monde, et il a été capturé par les Allemands.
Nino Kirtadze, réalisatrice.
Et après la défaite de Stalingrad, où les Soviétiques ont capturé Paulus, les Allemands ont appris qu'en fait, les prisonniers qu'ils ont, c'est le fils de généralissime Staline. Donc la proposition est faite de l'échanger contre le maréchal von Paulus, parce que pour les Soviétiques, c'est la première fois qu'ils capturaient le maréchal allemand. Donc ça a été quand même un événement. Et quand on a proposé ça à Staline, d'échanger son fils contre le maréchal von Paulus, il aurait dit « J'échange pas un simple soldat contre un maréchal ».
Il y a cette célèbre histoire. Des représentants de la Croix-Rouge allemande vont voir Staline et lui proposent un échange. Le maréchal Paulus contre votre fils. Et Staline répond : la guerre, c'est la guerre. Chaque soldat est mon fils. Que dirais-je à ses parents dont les enfants sont morts ou emprisonnés si je ne libère que mon propre fils ? Et je ne vais pas échanger un soldat contre un maréchal. Yakov est mort en 1943.
Ça, beaucoup de gens vont vous répéter en Géorgie ou en Russie, parce que ça a été perçu pas comme signe de violence, mais en fait, il disait qu'il n'y a aucune faiblesse, qu'il est absolument imperméable à tout ce qui peut les failles humaines. C'est quand même son fils. D'accord, il est soldat, mais c'est quand même son fils, mais ça, ça fait rien. Et donc, c'était pour le peuple, c'était aussi le signe de fermeté incroyable qu'il envoyait leur fils à la guerre, à la mort, mais le sien aussi. Peut-être qu'il l'aimait pas, peut-être qu'il était comme ça. C'est un vrai mystère, parce que c'est vrai que après, son fils est mort. Il s'est suicidé, il a sauté sur le barbelé électrique et il s'est suicidé dans le camp. Voilà, la mort, je ne sais pas ce qu'il voyait comme être humain aussi, en regardant son entourage. Je ne sais pas quelle idée il avait de c'est ce que ça pouvait être, un être humain. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde l'homme de cette position, c'est quoi le point de vue de Staline sur qu'est-ce que c'est un homme? Peut-être que c'est rien. Peut-être que c'est rien. C'est peut-être, voilà, comment il a gagné la guerre. Il a gagné la guerre parce qu'il a envoyé à la mort les milliers qui croyaient en lui. Et comment mettre en place cette croyance, cette dévotion que personne ne questionne pour envoyer autant de gens à la mort? Et c'est comme ça qu'il a gagné. Personne d'autre l'a fait. Les alliés, ils n'étaient pas prêts à sacrifier un quart de sa population pour avancer, lui-ci. Et voilà, d'où l'homme d'acier, il n'y a rien. Enfin, il disait, voilà, il décidait et basta. Il fallait que ça soit comme ça. Leningrad, ce qu'il a fait avec Leningrad, mais c'est un siège le plus long et le plus horrible dans l'histoire. Ce qu'il a fait à Ukraine, Golodomor, il a créé cette famine artificiellement parce qu'il y avait la résistance. Et pour avoir gardé 3 grains de blé dans sa cave, il pouvait tuer.
Crimée, février 1945. Interprète, musicien, cuisinier, service de sécurité pléthorique et délégation diplomatique sont sur le pied de guerre. Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline se retrouvent au bord de la mer Noire, à côté de Yalta. Le Biarritz des Tsars, selon les mots du journaliste et écrivain Arthur Comte. Le général de Gaulle n'a pas été convié. 8 jours pour discuter de l'avenir du monde à l'approche de la victoire alliée. L'hôte, Staline, a obtenu que la conférence se tienne sur le territoire de l'URSS. Selon l'historien Oleg Klevniuk, rien n'a été épargné pour reconstituer en un temps record un petit paradis dans un univers de ruines. La délégation américaine loge dans le palais de Livadia, les Britanniques dans le palais Vorontsov, et les soviétiques dans la villa Koreis, idéalement située entre les deux autres résidences. Un choix très judicieux, souligne narquoisement Arthur Comte, pour séparer et contrôler les déplacements des délégations anglaises et américaines. Les accords de Yalta déterminent, entre autres, les différentes zones d'occupation en Allemagne, dessinent les frontières de la Pologne, évoquent le sort des territoires réclamés par l'URSS, et les réparations que devra payer l'Allemagne. En toute amitié diplomatique, c'est-à-dire avec ce qu'il faut de méfiance paranoïaque.
Camarades, permettez-moi de porter encore un dernier toast. Je voudrais porter un toast à la santé de notre peuple soviétique, et tout d'abord à celle du peuple russe.
Staline. Discours à la réception organisée au Kremlin en l'honneur des commandants des troupes de l'armée rouge.
Je bois avant tout à la santé de notre peuple russe.
24 mai 1945.
La plus marquante entre toutes les nations qui font partie de l'Union.
Paru dans la Pravda le 25 mai 1945.
Je porte un toast à la santé du peuple russe parce qu'il a mérité dans cette guerre la reconnaissance universelle en tant que force dirigeante de l'Union soviétique parmi tous les peuples de notre pays.
Selon les démographes, 27 millions de soviétiques sont morts au cours de la guerre et la famine règne. Mais la victoire a renforcé le pouvoir de Staline et la solidité du régime qui a étendu sa zone d'influence en soviétisant ou ressoviétisant certains territoires et en installant des régimes amis, par exemple en Roumanie et en Bulgarie.
Разрешите мне поднять еще один последний тост.
le fameux toast du 24 mai 1945 au Kremlin, où Staline prononce donc un toast à la fin de la guerre pour remercier les citoyens soviétiques.
Maroussia Ferry, anthropologue.
Et juste après, il dit « et particulièrement au peuple russe ». Et tout le reste du toast est un toast au peuple russe. Le meilleur des peuples dans ce grand pays qui a su se sacrifier face à l'ennemi, etc. Et ça, c'est surtout l'historien Eric Scott qui en parle et qui dit bien que il faut étudier ce toast non seulement dans son contenu, qui est pour le peuple russe, mais dans sa forme. Et sa forme, c'est un toast à la géorgienne, qui donc allie une certaine forme d'éloquence. Il fait des répétitions à la santé du peuple russe qui... À la santé du peuple russe qui... Une manière de persuasion et de jubilation aussi, donc d'utiliser cette tradition géorgienne pour passer un message politique, mais d'une certaine manière pour l'utiliser aussi contre le particularisme géorgien ou autre, en tout cas le particularisme non russe, puisque ce toast est précisément à l'adresse des Russes.
Staline décide de prononcer ce toast à la gloire du peuple russe.
Torniki Gordadze, politologue.
Et ce qui est un peu mal vécu par les autres nationalités qui ont donné un lourd tribut à cette guerre contre le nazisme. Mais bon, à l'époque, c'est Staline et Auréolé, c'est celui qui récolte la gloire de la victoire contre le nazisme. Il devient une personnalité mythique déjà, le culte de la personnalité atteint des sommets. Donc il y a un malaise, mais en même temps, ce n'est pas vraiment exprimé. Cette victoire, cette image de généralissime Staline, qui est aussi un génie militaire et un génie politique, n'arrive pas à être entachée par ce toast qui néglige les autres nationalités de l'Union soviétique.
Un jour que j'étais venu à Moscou, Staline m'a affirmé que j'étais polonais.
Nikita Khrouchtchev, souvenir.
J'assistais à une réunion du comité central. Nous étions debout avec Khrouchtchev et Staline, s'approchant de nous, m'a enfoncé le doigt dans l'épaule en disant « Comment tu t'appelles ?»« Camarade Staline, je crois savoir que mon nom est Khrouchtchev. » »« Non, tu ne t'appelles pas Khrouchtchev. Tu ne t'appelles pas Khrouchtchev. C'est un tel et un tel qui l'ont dit. » et de citer le nom d'un Polonais qui m'était totalement inconnu. Et comment tu peux dire une chose pareille, camarade Staline ? Ma mère vit toujours. Les usines où j'ai travaillé, mon village de Kalinovka, dans la région de Koursk, il suffit de vérifier. C'est Khrouchtchev qui me l'a dit. Khrouchtchev ouvrait la bouche pour protester, mais déjà Staline s'était tourné vers Malenkov en prétendant que c'était lui, le premier, qui avait dit que Khrouchtchev n'était pas Khrouchtchev, mais un Polonais.
Le territoire soviétique est absolument immense. C'est un territoire hérité de l'époque impériale, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de groupes ethniques qui cohabitent sur ce territoire. Par exemple, si on regarde l'ouest de l'Union soviétique, on y trouve bien sûr des populations finnoises ou encore des Polonais, des Ukrainiens. Puis, avec la Seconde Guerre mondiale, il y aura les Estoniens, les Lituaniens, les Lettons, les Juifs, nombreux, qui sont considérés en URSS comme un groupe ethnique et non pas religieux. Les Moldaves, les Grecs, les Bulgares de Crimée ou de la mer Noire, les Tatars de Crimée, et puis des dizaines de peuples caucasiens, le Caucase du Sud, avec bien sûr les Géorgiens, les Azéris, les Arméniens, et puis bien sûr tous les peuples de la Volga, les peuples tels que les Tatars, les Bachkirs, les Kalmouks plus au sud, dans les steppes. Et puis, à travers la Sibérie, on retrouve les peuples autochtones et jusqu'à l'Extrême-Orient, où il y a des populations coréennes, par exemple.
Je pense que c'est vraiment la marque de Staline et de sa perception de la relation entre peuple et territoire, de sa perception de ce qu'est l'Union soviétique dominée par la Russie et de sa vision soupçonneuse en permanente de l'ennemi.
Alain Blum.
L'ennemi peut être partout, ce qui va avoir comme conséquence de penser les peuples à travers leur loyauté vis-à-vis de l'Union soviétique. Les politiques de déportation des peuples vont être menées par Staline, qui considère qu'un peuple est soit dangereux, soit loyal. Par exemple, la première grande déportation, c'est la déportation des Coréens, qui sont en Extrême-Orient. Être coréen, ça veut dire être plutôt loyal au Japon, parce qu'ils sont asiatiques, dans la vision stalinienne, que loyal à l'Union soviétique. Et ça va être une politique qui ensuite va vraiment caractériser la politique stalinienne, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Allemands de la Volga, qui sont depuis très longtemps sur les territoires de l'Empire, qui sont complètement installés, qui parlent encore un certain allemand archaïque d'ailleurs, mais aussi qui parlent russe. Ces Allemands de la Volga sont considérés par Staline, dès l'invasion de l'URSS, par l'Allemagne nazie, comme des alliés naturels de l'Allemagne nazie et non pas de l'Empire russe, et sont déportés en quelques jours, plus d'un million de personnes sont déportées en quelques jours vers l'Asie centrale ou vers la Sibérie. Ensuite, les Tchétchènes, les Tatars de Crimée et quelques autres peuples. Et après la Seconde Guerre mondiale, ça va toucher les territoires qui ont été annexés par l'Union soviétique après le pacte Molotov-Ribbentrop. Ça va toucher les populations des territoires de Lituanie, d'Ukraine. Donc la déportation devient un moyen politique extrêmement fort et extrêmement efficace. Donc cette volonté impériale passe par des mesures répressives où on déporte collectivement des groupes entiers de population.
Je crois que c'est la mort de maman qu'il avait pris comme une trahison qui a installé en lui un froid absolu. Il a cessé de croire en l'humanité, en laquelle peut-être il n'avait jamais beaucoup cru. Ce n'est pas que maman, pendant les 14 ans qu'elle avait vécu à ses côtés, aurait fait de lui un autre homme, mais tout le monde a remarqué à quel excès de violence il s'est livré après sa mort. En 1937, il n'a même pas hésité à faire fusiller ses proches. Les trois Sfanidze, l'oncle Alyosha, sa sœur Mariko et la tante Maroussia. Stanislav Redens, le mari de ma tante Anna Alilouyeva. Et Avalenoukidze, le parrain de maman. Lorsque les faits avaient convaincu mon père que l'ami de jadis était manifestement une canaille, une véritable métamorphose se produisait en lui. Peut-être doutait-il au fond, souffrait-il. Mais une logique rigoureuse et implacable le dominait alors. Si l'on a dit A, il faut dire B, C et tout l'alphabet. Une fois admis que Z était un ennemi, il lui fallait continuer à admettre qu'il en était bien ainsi, et par la suite, tous les faits s'organisaient d'eux-mêmes pour venir confirmer cette vérité. Il lui était psychologiquement impossible de revenir en arrière. Tout souvenir était aboli.
Mais je crois que l'arbitraire est nécessaire au pouvoir totalitaire. Faire accepter l'arbitraire et l'absence de logique est la clé finale qui permet de briser la volonté humaine.
Fabien Nury, scénariste.
On rationalise cet arbitraire, mais en fin de compte, c'est des suites logiques basées sur une affirmation telle que le soleil est bleu. Et on voit vraiment que l'idéologie, a priori, n'est qu'un prétexte. Je trouve que De Gaulle, quand il décrit Staline, en parle assez bien. Quand il dit « Il était parvenu au pouvoir, usant à fond des détours de l'exégèse marxiste et des rigueurs totalitaires, mettant au jeu une audace et une astuce surhumaine, subjuguant ou liquidant les autres. » On voit bien qu'en fait, il cite l'exégèse marxiste comme un outil. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Marx lui-même, en fait. C'est juste une argutie lui permettant de, c'est une suite de prétextes. La foi, politique ou religieuse, devient inféodée à la volonté de pouvoir. On n'est plus là pour servir une cause. La cause, in fine, c'est moi. Pour moi, avec Staline, on parle quand même pas mal de ça. On parle du dévoiement d'un espoir collectif. Dès qu'un individu prétend fusionner avec son pays, ça y est, c'est foutu. Donc lui, il est arrivé à la Russie, c'est moi. Cette fusion individu-pays, c'est quand même une des clés essentielles du programme. Cette confusion, puis fusion, entre le désir individuel et le destin national.
Si s'il y a quelque chose que Staline a amené de ses origines géorgiennes jusque dans le cœur du Kremlin et qui est au cœur de sa culture géorgienne, c'est la gastronomie géorgienne qui a été promue d'une manière très très vigoureuse par Staline, qui a nommé quasiment tous lui-même les chefs cuisiniers du Kremlin en provenance de Géorgie et qui a imposé la cuisine géorgienne tout d'abord au Kremlin, puis dans les restaurants d'élite à Moscou, puis dans les cafétérias d'ouvriers et enfin jusque dans les cuisines des soviétiques en général. Et là, il y a quelque chose de très fort, je pense, puisque Staline arrive au pouvoir, tout le monde se met à manger géorgien d'une certaine manière. Et il y a aussi un lien très intime entre Staline et le peuple soviétique de cette manière-là. C'est du mimétisme, c'est de l'identification. Manger géorgien devient un signe de distinction aussi. Et il impose non seulement les produits géorgiens, les recettes, mais aussi les manières de table. Donc le fait de boire du vin, de faire des toasts, de boire énormément.
Staline au fond des verres, Staline dans les assiettes, sans doute aussi au cœur de la nuit, dans les rêves et les cauchemars des soviétiques. S'il est peu visible en chair et en os dans l'espace public, son image, elle, se décline à l'infini. En photo, en sculpture, en peinture, le regard droit, toujours vêtu d'un uniforme kaki ou blanc, sur lequel se détachent des rangées de médailles, insignes et décorations militaires. Le 24 juin 1945, un immense défilé est organisé à Moscou pour célébrer la victoire, avec un Staline bientôt élevé au rang suprême de généralissime.
Les vêtements de Staline, la première chose qui me vient à la tête, c'est le manteau militaire de Staline qui s'appelle chinelli.
Irma Jajanashvili, traductrice.
Qui est long, resserré à la taille. Et je pense que Staline voulait se montrer, se présenter comme grande, parce que ça rallonge chinelli, resserré sur le taille et longue, ça rallonge la silhouette. Parce que ce manteau militaire, les autres personnes, ils sont plus courts que le chinelle de Staline. Les bottes militaires aussi, j'ai l'impression qu'ils portaient les bottes militaires plus grandes que c'était sa pointure, pour donner l'image d'une personne grande à la population. Après, une tache rouge à gauche de son manteau militaire. Peut-être c'était un médaillon ou le symbole soviétique, je ne peux pas le décrire, mais dans ma tête me vient une tache rouge sur son chinelli.
Gouram Tsibakashvili.
Pour moi qui suis photographe, c'est intéressant de se pencher sur les photos de Staline et d'essayer de les analyser. Il y a une légende en Géorgie qui raconte que Staline n'aimait pas être photographié, qu'il n'aimait pas l'usage public que l'on faisait de son image. Mais en réalité, c'est assez drôle, c'est tout le contraire qui se produisait. Il connaissait parfaitement le pouvoir de la photographie et de l'image. C'est pour ça qu'il en usait et vérifiait tout. Il contrôlait lui-même très précisément toutes les photos et plus largement toutes les images qui le représentaient. Il posait, il censurait. Je me souviens d'un portrait de lui réalisé par un peintre. Je l'ai vu dans une grande exposition consacrée à Staline. Sur ce dessin, il y a une croix et une annotation à l'encre rouge. Staline a écrit que l'oreille ne lui convenait pas. Écrit sur la joue, je cite, « Cette oreille dit que l'artiste n'est pas à l'aise avec l'anatomie. » Joseph Staline. Plus bas, sur le cou, je cite encore, « L'oreille crie, hurle contre l'anatomie. » J.S. J'ignore si l'artiste a survécu ou non, mais il est certain que Staline prêtait énormément attention à son apparence.
Le fait qu'il soit partout et au premier plan, ça résulte de sa volonté, mais en plus, il va vraiment contrôler de près le contenu de ce culte. Rien n'est laissé au hasard. Il intervient jusqu'à corriger les dessins qui le représente. Il est hors de question qu'une photo non autorisée ou qui n'est pas passée par un contrôle qu'elle paraisse dans la presse soviétique. Et donc, il intervient constamment. Ça relève d'une véritable conscience de l'importance de l'image. Il s'investit donc dans la construction de son image. Certaines photos ont été clairement retouchées, par exemple pour mettre en avant la figure de Staline grâce aux couleurs. Par exemple, il y a une photo où tout le monde est habillé dans des costumes ou des uniformes assez sombres et lui, le seul, a porté un costume blanc ou très clair. Ou l'inverse, il y a des photos où c'est tout le contraire, où tout le monde est habillé en blanc et lui seul est habillé dans des couleurs foncées qui permettent tout de suite de distinguer son personnage. On s'arrange avec la réalité pour le faire apparaître à travers soit les retouches, soit le maquillage, lisser sa peau qui avait été abîmée par la maladie et le faire apparaître plus beau, plus agréable à voir. Et on voit comment, à nouveau, pendant les années 30, on passe des représentations quand même assez réalistes, même si elles sont plus lisses, un peu embellies, comment on passe à une image complètement désincarnée, dans le sens où elle n'a plus grand-chose à voir avec le corps réel de Staline. Mais on a l'impression, en jugé par certains témoignages, qu'il avait vraiment la conscience de ce, une sorte de corps sacré du roi qu'il a créé. Il semblerait qu'il aurait, à plusieurs reprises, souligné ou rappelé cette distance entre lui en tant que corps et l'image de lui telle qu'elle est construite publiquement.
Son histoire personnelle, ses complexes personnels, être petit, voilà, pieds palmés, visage défiguré, boiteux.
Nino Kirtadze.
Et tous les survivants que j'avais rencontrés quand j'étais encore à l'université, la première chose qu'ils disaient, qu'il était petit. Qu'on ne voyait pas ça sur l'iconographie soviétique. Qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il était aussi petit. Et les gens racontent que le fait qu'il était un petit homme boiteux avec la main défigurée parce qu'il ne pouvait pas utiliser sa main gauche. Il avait toujours sa main dans le manteau, comme ça. C'était assez étonnant de voir cette, comment dire, vulnérabilité physique qu'il dégageait, sans trop vouloir. Donc tout ça, ça a fait une espèce de cuisine assez étrange qui a donné ce personnage.
On a organisé une exposition en 1949 pour le 70e anniversaire de mon père. Les œuvres de cette exposition gigantesque, qu'on avait eu de la peine à faire tenir dans les salles de la galerie Tretiakov, n'avaient toutes qu'un sujet, Staline.
Svetlana Alilouyeva, fille de Staline.
Dans chaque cadre, le même personnage était là, plusieurs fois sous les apparences d'un jeune géorgien inspiré, le regard levé vers le ciel, ou celle d'un général aux cheveux gris, en uniforme de la Russie impériale, avec épaulettes. Les artistes arméniens lui avaient fait une tête d'arménien, les ouzbeks une tête d'ouzbek. Un peintre chinois lui avait donné une ressemblance avec Mao Tse-tung. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, dans la même tunique semi-militaire, avec exactement la même expression.
Товарищи, товарищу Сталину исполнилось 70 лет. Вся его жизнь и вся его работа это является для нас.
Décembre 1949. Staline a 70 ans. Enfin, 70 plus 1, puisque sa date de naissance réelle n'est pas la même que sa date de naissance officielle. Ce vrai faux anniversaire est célébré en grande pompe. Les invités politiques de marque ont fait le déplacement et les artistes lui rendent hommage. Succédant à la tribune au réalisateur Alexandre Dovzhenko,
Le compositeur Dmitri Shostakovich prend la parole. On peut distinguer, mais avons-nous raison, un léger tremblement dans sa voix.
Я музыкант, поэтому позволю себе задержать ваше внимание моими.
Le camarade Staline a eu 70 ans. Toute sa vie et son activité sont pour nous tous une étoile directrice, une science. Nous devons nous efforcer d'être staliniens, de travailler comme Staline et d'être également dévoués à notre peuple et à notre art.
Поэтому позволю себе задержать ваше внимание. Поэтому позволю себе задержать
Une
ваше
fête,
внимание
mais tout le monde a peur.
Моими, но это не только мои, это всего нашего народа музыкальными делами. Так сказать, было напомнено в этом постановлении, было очень строгое и суровое напоминание для тех, кто забыл о благородной и великой роли музыкального искусства, о той роли, которую музыкальное искусство должно играть в строительстве нашей общенародной советской культуры.
Side 2, number 6, continued.
Вот такие времена были. Это уже наступали опять после войны, такие уже началось развиваться такое, значит, ну, мы возвращались.
Voilà ce que c'était cette période. Après la guerre, nous revenions de nouveau au hachoir à viande de 1937, aux méthodes de travail de 1937-1938.
Трагическое положение опять создавалось для
Une situation tragique menaçait de nouveau le parti, et cela pouvait facilement se propager à l'ensemble du pays.
Staline, советский бог.
Staline, un dieu soviétique.
Непрозрачная фигура.
Moustache.
Staline.
Усы.
Советский бог.
Petit. Низкий.
Непрозрачная фигура.
Волшебный образ. Une figure opaque.
Непрозрачная фигура.
Непроницаемая фигура. Une glace sans teint, зеркало без амальгамы.
Il amenait la peur avec lui où qu'il allait. Он нес страх с собой куда бы ни приходил.
Je crois que c'est la plus belle histoire d'information que l'on puisse jamais rêver. Elle s'est déroulée en deux temps. La première était la maladie de Staline, la seconde a été la mort de Staline. La maladie de Staline nous a été apprise un matin à l'écoute de Radio Moscou. On nous a simplement dit « Staline malade à 6h du matin ».
Allô la Terre, ici l'agence France Presse. Émission diffusée le 2 décembre 1953.
Monsieur Volokhin, vous êtes resté à l'écoute pendant la majeure partie de cette période.
Je suis le rédacteur qui a capté d'abord l'annonce de la maladie de Staline le 4 mars à 6h30 du matin. Et alors, j'écoute Radio Moscou à 6h, je m'attendais à un éditorial absolument banal, et soudain, je m'aperçois que le speaker n'annonce absolument rien, il y a simplement de la musique. Ça m'a paru bizarre, cette affaire-là. Et alors là, j'attends la voix du speaker de Radio Moscou, il s'appelle Lévitan, et j'ai compris seulement trois choses qu'il annonce avec une voix de tonnerre. Staline, hémorragie cérébrale, paralysie, côté droit, hémisphère cérébral. Et état très grave.
On peut dire que toutes les agences du monde étaient à l'écoute pour entendre la même nouvelle. Tout le monde avait préparé également les flashs en disant « Staline dit », c'est-à-dire « Staline mort » pour le monde entier. Donc, il fallait aller plus vite que les autres. Il est certain, il est absolument certain, incontestable et incontesté, que nous avons gagné sur la mort de Staline une minute. Sur n'importe quelle autre agence, étrangère. Le monde américain, c'est-à-dire 180 millions d'auditeurs, a appris la mort de Staline par une agence française. C'est, je crois, le plus grand succès qu'une agence internationale ait jamais enregistré sur une nouvelle mondiale, et je puis dire la nouvelle du siècle.
Funérailles de Staline, 9 mars 1953.
Si ma mémoire est bonne, 12 caméras tournaient à Moscou et aussi dans les périphéries comme en Géorgie et dans toutes les 15 républiques soviétiques. En dehors de République soviétique, vous voyez les images qui viennent de Corée, qui viennent de Chine. Enfin, le monde entier pleure Dieu, qui est mort. Staline, donc.
Milliers de fleurs, milliers de visiteurs. Oui, oui, c'était une peine totale dans le monde entier, hein. Évidemment en Union soviétique, mais... Je pense que beaucoup de Français l'ont pleuré tout autant.
Thierry Robin, dessinateur et scénariste.
Une magnifique mise en scène, doublée d'une vraie ferveur populaire, à l'image du régime. Il y a par exemple ce cercueil avec ce petit dôme transparent pour que le peuple voit le visage de Staline dans son cercueil, qui est tout à fait unique, je n'avais jamais vu ça. Il y a une science de la propagande, de l'imagerie, où on voit des enfants, où on voit les dirigeants du parti près du corps, les montagnes de fleurs, le crêpe qui est mis autour des lampes, par exemple. Toutes les lampes ont été entourées de tissu noir pour tamiser la lumière. Ça donne une impression de mystère absolument formidable. Il y a le monde religieux orthodoxe aussi qui défile devant le cercueil. Je pense que la peine des gens était tout à fait sincère. Comment pourrait-il en être autrement ? Ils ont été élevés dans la croyance qu'ils avaient à leur tête l'homme providentiel et le cerveau le plus intelligent du monde.
Luba Jurgensson, écrivaine et professeure de littérature.
Staline est-il mort ? On attribue, je crois, à un homme politique français, mais je ne me souviens plus à qui, cette phrase extraordinaire prononcée, donc soi-disant, à la mort de Staline. Staline n'est pas disparu dans le passé, il s'est fondu dans le futur. Alors, je ne sais pas à qui appartient cette phrase, mais on n'a jamais encore eu autant le sentiment que Staline s'est fondu dans le futur, et ce futur, c'est notre présent.
Lacha Bakradze, chercheur en littérature et historien.
Es wird Stalin zugeschrieben.
On attribue à Staline les propos suivants. En réalité, je ne pense pas qu'il l'ait vraiment dit, mais c'est une pseudo-citation que les staliniens utilisent encore aujourd'hui. Il disait qu'à sa mort, on recouvrirait certainement sa tombe d'ordures, mais que le vent de l'histoire soufflerait et libérerait sa tombe de toutes ses saletés.
À la fin de l'année 1961, à l'issue du 22e congrès du parti, la dépouille de Staline est évacuée du mausolée pour être enterrée dans le mur du Kremlin. Jusque-là, les deux guides reposaient côte à côte dans le mausolée. Cette mesure a été perçue par les soviétiques comme un signal de libéralisation. C'était une mesure qui n'a pas été suivie d'autres signes de déstalinisation. Donc cette joie de voir enfin en tout cas pour une grande partie des soviétiques et surtout ceux qui avaient fait l'expérience du goulag, cette joie de voir Staline dégradé était accompagnée d'une crainte, à savoir qu'il revienne. Et par exemple, en 62, Yevtushenko écrit un poème dans lequel Staline apparaît clairement comme un vampire qui n'est pas mort, qui va sortir de son cercueil, qui se prépare à sortir de son cercueil. Я обращаюсь к правительству нашему с просьбой удвоить, утроить у этой стены караул. Je m'adresse à notre gouvernement en le priant de doubler, de tripler la garde devant ce mur pour empêcher Staline de sortir. Et cette crainte était justifiée parce que déjà après le 20e congrès et tout au long de la période soviétique, il y avait des tentatives de réhabiliter Staline. Et aujourd'hui, nous assistons de nouveau à plus que des tentatives, c'est-à-dire de réelles initiatives de réhabilitation.
Опустошать все вокруг себя. Un homme impénétrable.
Сталин непроницаемый человек.
Куда бы ни приходил. Непроницаемый человек.
Un homme de ressentiment. Человек ressentiment. Непроницаемая фигура.
Злобный человек. Le pouvoir. Власть.
Малосольный огурец кум жевал внимательно. Скажет слово и поест. Морда вся в апатии.
Dans une chanson plus tardive, je pense qu'elle doit dater des années 70, le barde Galich a repris ce thème du retour de Staline, mais là, Staline revient sous forme de monument. Tous ces monuments à Staline qui ont été démantelés, qui ont été détruits parfois, dans cette chanson, apparaissent comme regroupés quelque part, ou en tout cas dormant quelque part. Toujours cette idée du vampire qui dort et sont prêts à sortir. Et donc on les voit déambuler dans les villes. Donc je crois que Staline n'est pas mort.
Devenir Staline. Cinquième épisode, un généralissime et son culte. Avec Alain Blum, Lacha Bakradze, Maroussia Ferry, Tornike Gordadze, Nana Yashvili, Irma Jajanashvili, Luba Jurgenson, Nino Kirtadze, Emilia Kustova, Fabien Nuri, Thierry Robin, Gouram Tsibakashvili, Nicolas Vert, et les voix de Hervé Pierre et Julie Pouillon. Merci au Centre d'Histoire Orale de l'Université de Columbia pour les mémoires de Nikita Khrouchtchev qui sont enregistrées sur bande et conservées dans leur phonothèque. À Irma Jajanashvili et Irma Inaridze pour les contacts et les traductions en Géorgie, à Nana Janelidze, Nana Ginoridze, Valérie Kislov, Laurent Lefrançois et Tamara Svanidze. Prise de son Benjamin Thuo, Philippe Thibault et Guillaume Ledu. Mixage, Manuel Couturier. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin. Coordination, Christine Bernard. Chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost. Une grande traversée de Marie Chartron, réalisée par Diffie Mariani.